Bonjour à tous, mon nom est Sarah Edith Penney et je dirige le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire, le RQESR. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce programme sur l'hypertension pulmonaire avec notre expert, le docteur Steve Provencher, qui est pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ. Donc, cette trilogie de balado a été rendue disponible grâce à une subvention à l'éducation octroyée au RQSR par Merck Canada. À la fin du programme, les participants qui auront complété le questionnaire d'évaluation et qui auront réussi avec une note de plus de 70% se verront attribuer une attestation de réussite accompagnée de 0,1 USC qui correspond à une heure de formation continue accréditée. Sans plus tarder, je vous laisse écouter notre expert, le docteur Steve Provencher, pour la première partie de ce balado.
Très bien, mon nom est Steve Provencher. Je suis pneumologue à l'Institut cardio-pneumo de Québec, puis directeur de la clinique d'hypertension pulmonaire ici à l'Université Laval. Donc, dans le fond, l'hypertension pulmonaire, ça se définit par une augmentation persistante de la pression dans l'artère pulmonaire. Et donc, il y a certains seuils qu'on utilise, là, par exemple une pression supérieure à 20 mm de mercure de pression moyenne dans l'artère pulmonaire. Et contrairement à l'hypertension systémique qui donne généralement pas de symptômes, ben l'hypertension pulmonaire, peu importe la cause, ça se traduit par des symptômes significatifs pour les patients. Il existe plusieurs causes d'hypertension pulmonaire. On les divise en cinq grandes catégories essentiellement. Une des formes qu'on voit fréquemment, c'est l'hypertension pulmonaire qu'on dit de groupe 2, qui est due à de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc l'insuffisance cardiaque gauche va faire élever la pression à rebours dans la circulation pulmonaire, causer l'hypertension pulmonaire de groupe 2. L'hypertension pulmonaire de groupe 3, c'est l'hypertension pulmonaire qui est due à une maladie du poumon, par exemple fibrose, emphysème, qui va venir détruire en partie le parenchyme pulmonaire, le poumon, puis causer secondairement à ça de l'hypertension pulmonaire. Et l'hypertension pulmonaire de groupe 4, qui fait suite à des embolies pulmonaires, donc des caillots qui se sont logés au niveau des poumons, et qui n'ont pas pu se dissoudre complètement au fil du temps, et donc qui vont amener des obstructions chroniques au niveau des vaisseaux des poumons, puis causer de l'hypertension pulmonaire suite à ça. Un cinquième groupe dans lequel il y a toutes sortes de causes différentes, puis le groupe 1, je reviens au groupe 1, qui est l'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, qui est une forme plus rare d'hypertension pulmonaire, qui, elle, est caractérisée par un remodelage concentrique des artérioles pulmonaires. Donc les petites artérioles, les petits vaisseaux pulmonaires, précapillaires sont rétrécis de façon progressive et donc ça nuit au passage du sang dans la circulation pulmonaire, ça fait monter la pression dans la circulation pulmonaire puis ça cause de l'hypertension pulmonaire. Donc ce sont cinq grandes formes vraiment distinctes d'hypertension pulmonaire.
Merci beaucoup. Et puis justement, vous avez glissé un mot que ça causait des symptômes contrairement à l'hypertension régulière. Donc, pouvez-vous nous parler de ces symptômes-là?
En fait, les symptômes d'hypertension pulmonaire sont très peu spécifiques. Le symptôme cardinal, c'est la dyspnée essentiellement et l'intolérance à l'effort. Donc, plus tardivement, quand la maladie va évoluer, quand il va y avoir une aggravation de l'hypertension pulmonaire qui va amener une défaillance cardiaque droite, une insuffisance cardiaque droite, on peut voir des choses supplémentaires comme, par exemple, la rétention d'eau, donc édème des membres inférieurs, gonflement de l'abdomen, parfois des douleurs thoraciques, des lipotymies ou syncopes, donc à l'effort, classiquement. Donc ça, ce sera des symptômes très, très tardifs de la maladie. Sinon, bien, ça va se présenter par de l'essoufflement, de la dyspnée, d'où la difficulté d'arriver à un diagnostic parce que la dyspnée, c'est très, très peu spécifique. Lorsque les patients consultent leur médecin pour la dyspnée, bien, on pense à toutes sortes d'autres maladies avant de penser à de l'hypertension pulmonaire. C'est ce qui amène des délais de diagnostic très, très importants. Évidemment, quand ça survient chez quelqu'un qui n'a pas de maladie autre, pas de maladie de poumon ou de cardiaque autre, comme en HTAP, bien, on peut imaginer que les médecins pensent à toutes sortes d'autres diagnostics comme l'embonpoint, le déconditionnement, la dyspnée psychogénique, etc., l'asthme ou d'autres maladies communes. Donc, ça devient très, très difficile d'y penser et de la diagnostiquer. C'est aussi très difficile chez des gens qui sont porteurs d'une maladie parce que, en général, lorsque ça survient chez quelqu'un qui a déjà une maladie cardiaque ou respiratoire, ça va se présenter par de l'essoufflement qui paraît un peu disproportionné par rapport à ce qu'on devrait s'attendre face à la maladie du patient, mais ça demeure non spécifique et ça amène des délais diagnostiques importants.
Et justement, en parlant de diagnostic, une fois qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous suit et qui s'aperçoit de nos symptômes, comment on fait le diagnostic?
En fait, lorsqu'on suspecte une hypertension pulmonaire, l'outil de choix en premier lieu, c'est l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque va nous permettre d'estimer avec passablement de précision le niveau de pression dans l'artère pulmonaire. Donc, ça va pouvoir généralement nous dire s'il y a de l'hypertension pulmonaire ou non. Ce n'est pas un outil qui est infaillible. Donc, ça fait en sorte que si on est vraiment convaincu qu'il y a de l'hypertension pulmonaire et que l'échographie ne donne pas tout à fait les résultats qu'on pensait, je pense que dans certains cas, on va plus loin quand même en termes d'investigation. Mais la plupart du temps, ça nous donne une bonne idée. Lorsqu'on a une échographie qui nous suggère fortement une hypertension pulmonaire, bien, si on veut confirmer le diagnostic, on va devoir faire ce qu'on appelle un cathétérisme cardiaque droit, donc aller avec un cathéter via une veine, soit du bras, soit du cou, plus rarement en fémoral, pour aller vraiment mesurer avec précision les niveaux de pression dans l'artère pulmonaire, puis aussi en déterminer la cause et la sévérité également. Puis, dernier élément, c'est que lorsqu'on a un patient chez qui on suspecte ou chez qui on confirme une hypertension pulmonaire, bien, ça ne nous donne pas la cause de cette hypertension pulmonaire-là. Donc, en général, on va faire des examens qui vont nous permettre d'identifier qu'est-ce qui est à l'origine de l'hypertension pulmonaire en regardant la fonction pulmonaire, la fonction cardiaque gauche, s'assurer qu'il n'y a pas de maladie thromboembolique, etc. Je pense que le premier réflexe à avoir, c'est que un patient qui a de la dyspnée inexpliquée, sans qu'on sache pourquoi, mais je pense que le premier message à retenir, c'est qu'on doit aller plus loin en termes d'investigation. Mais une fois qu'on a exclu la présence d'asthme, une POC, etc., il faut aller plus loin. Puis l'outil de choix à ce moment-là, c'est l'échographie cardiaque, évidemment. Puis s'il y a des signes d'hypertension pulmonaire, ces patients-là devraient être référés effectivement vers un spécialiste qui va pouvoir faire la suite des choses pour évaluer s'il y a vraiment de l'hypertension pulmonaire et s'il y a des causes évidentes. Donc, je pense que c'est probablement le premier message à retenir. Le deuxième message à retenir, c'est chez les patients qui sont porteurs déjà d'une maladie cardiaque ou respiratoire, si l'essoufflement nous paraît disproportionné ou si la réponse au traitement n'est pas ce à quoi on devrait s'attendre, il faut quand même penser qu'il puisse y avoir de l'hypertension pulmonaire associée. Et donc, encore une fois, dans ces circonstances-là, prévoir probablement une échographie cardiaque et ou une référence en spécialité pour poursuivre l'investigation.
Chez qui on peut suspecter une hypertension pulmonaire?
Ouais, en fait, bon, d'abord, il y a évidemment ceux qui sont déjà porteurs d'une maladie cardiaque gauche, une maladie respiratoire. Bien, par exemple, chez les patients POC sévères, il y a une proportion quand même importante des patients qui vont avoir de l'hypertension pulmonaire associée. Même chose en fibrose pulmonaire. Donc, ça, on peut le suspecter. Par contre, ce sont deux types d'hypertension pulmonaire, les hypertensions pulmonaires de groupe 2 et 3, pour lesquelles on n'a pas actuellement de traitement efficace pour traiter ces formes d'hypertension pulmonaire-là. Donc, c'est pertinent de le faire parce qu'on sait que c'est associé à un moins bon pronostic. Ça peut parfois nous suggérer qu'on doit référer le patient en greffe, vers une greffe pulmonaire plus rapidement, mais on n'a pas de traitement spécifique à l'heure actuelle. Les deux formes pour lesquelles on a vraiment des traitements qui peuvent être vraiment efficaces, c'est l'hypertension pulmonaire de groupe 1 et 4. Donc, l'hypertension pulmonaire de groupe 4, on se rappelle que c'est suite à des embolies pulmonaires. Et donc, le premier message à retenir de ce côté-là, c'est que chez les patients qui ont déjà eu une embolie pulmonaire dans le passé, si ces patients-là, en fait, je pense qu'il faut questionner s'il y a persistance de dyspnée après un épisode d'embolie pulmonaire, parce que traditionnellement, on pensait que l'embolie pulmonaire, c'est un phénomène aigu, puis une fois qu'on passait à travers l'épisode aigu, on était guéri et que c'était fini. Maintenant, on sait qu'il y a une proportion non négligeable de patients qui vont conserver de la dyspnée. Parmi ces patients-là, il y a un petit sous-groupe de patients qui vont avoir de l'hypertension pulmonaire post-embolique. Et donc, c'est une faible proportion, mais c'est une proportion de patients vraiment importante à identifier parce que les traitements vont être très, très efficaces pour, dans certains cas, même guérir l'hypertension pulmonaire et améliorer de façon substantielle la qualité de vie des patients. Donc, ça, c'est l'hypertension pulmonaire de groupe 4. L'hypertension pulmonaire de groupe 1, donc ça, encore une fois, c'est la maladie qui est due à un remodelage des petites artérioles pulmonaires. C'est une maladie qui est nettement moins fréquente que les autres formes d'hypertension pulmonaire. Souvent, ça va être idiopathique, c'est-à-dire sans cause, sans condition associée. Ça va être très, très difficile à diagnostiquer. C'est pour ça que les délais diagnostiques dans cette forme d'HTAP-là sont de plus de 2 ans et demi actuellement, donc c'est vraiment très long. Mais l'HTAP, ça peut aussi survenir chez des gens qui ont une condition médicale qui les prédispose au développement de l'HTAP. On ne sait pas trop bien pourquoi. Il y a certaines maladies qui prédisposent au développement de l'HTAP, notamment les patients qui sont porteurs de connectivite. Les connectivites, dans le fond, c'est un groupe de maladies auto-immunes qui donne souvent de l'arthrite et qui peut se compliquer d'HTAP, donc comme la sclérodermie, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc, les connectivites, les patients qui ont des maladies du foie, donc cirrhose essentiellement, les gens qui ont une infection par le VIH. On ne sait pas encore une fois pourquoi, mais à peu près un patient VIH sur 200 va développer de l'HTAP. Les patients qui ont été exposés à certains médicaments ou aux méthamphétamines, donc certaines drogues de rue, peuvent développer de l'HTAP. Et les patients qui sont porteurs d'une cardiopathie congénitale, donc une malformation cardiaque de naissance, ce sont vraiment des patients qui sont à risque élevé de développer de l'HTAP. Et finalement, j'ai oublié de dire, il existe également des formes héréditaires d'HTAP. Donc, ce sont des formes rares d'HTAP, mais pour lesquelles il y a une prédisposition génétique très, très, très importante. Donc, c'est sûr que s'il y a eu des cas dans la famille d'HTAP, les gens de la famille sont évidemment à risque élevé, à risque significatif de développer un jour de l'HTAP également. Donc, il y a quand même passablement de facteurs de risque pour développer un ou l'autre des types d'hypertension pulmonaire auxquels les cliniciens doivent penser.